France Musique. Musicopolis. Novembre 1932, Paris. Le chroniqueur du Petit Journal, initial PG, termine ainsi son article du 1er novembre 1932. Canteloube est un chasseur tenace, toujours à la recherche de cette jante ailée que sont les chansons populaires. Mais Canteloube n'est pas un chasseur qui tue. Il est comparable à Merlin l'Enchanteur. Il ne capture pas les oiseaux couleur de feu, il les apprivoise. Puis, il leur donne le plein vol. Voulez-vous un petit pâtre, bergère ? Je garderai bien toute seule, cavalier. Je garderai bien toute seule, rossignolet. Venez vous asseoir à l'ombre, bergère. L'ombre est humide de rosée, cavalier. L'ombre est humide de rosée, rossignolet. Là-bas, la fougère est sèche, bergère. Allons-y donc passer une heure, cavalier. Allons-y donc passer une heure, rossignolet. Le succès, écrit le chroniqueur du Petit Journal, n'a pas entamé cette vertu que Canteloube possède au plus haut degré, la simplicité. Ne vous fiez pas par exemple à ce monocle que l'artiste porte constamment. « J'y vois très mal de l'œil gauche », dit-il. Canteloube est aussi très raisonnable, mesuré. Cela éclate dans sa musique et cela ne l'empêche pas de jouer profond. Ne vous y trompez pas, Canteloube est un savant, musicalement parlant, mais il a le goût et l'élégance. Sa musique est une docte musique. Pourtant, elle est tout imprégnée des odeurs de la terre. C'est que Canteloube a recueilli pour nous les chansons d'Auvergne. Il a été, lui, marqué par leur influence. Où trouver de meilleurs maîtres que nos ancêtres paysans, remarque-t-il. L'article du Petit Journal, dont je vous lisais un extrait, est motivé par l'annonce d'un nouvel opéra de Joseph Canteloube, qu'il vient de finir, qui sera représenté l'année suivante en 1933 à l'Opéra de Paris et qui s'intitule « Vercingétorix ». C'est l'occasion pour le chroniqueur de rappeler les précédentes publications des chants d'Auvergne de ce compositeur. Des chants répartis pour le moment en quatre séries, la création de la quatrième ayant eu lieu quelques jours plus tôt, en octobre 1932. À ce propos, le ménestrel rend compte de l'audition de ces quelques mélodies. L'auteur, lit-on, a su, sans les alourdir, les soutenir par une orchestration riche et bigarrée où semblent passer tous les bruissements des paysages de montagne et sur laquelle se détachent les instruments rustiques d'Auvergne et de Limousin. Chacun de ces chants forme un petit tableau lyrique très réussi. Si on a un peu oublié la plupart des œuvres de Joseph Canteloube, ses chants d'Auvergne, eux, sont restés au répertoire. En particulier la version pour chant et orchestre, enregistrée par de nombreuses sopranos. Des chants qu'il a recueillis sur place, puis harmonisés, puis enfin orchestrés. Joseph Canteloube n'est pas tout à fait originaire d'Auvergne. Il est né à Annonay, en Ardèche. Mais son père était auvergnat et l'a emmené marcher dans ses montagnes, où l'enfant a entendu tout petit des chants et des danses. Il a ensuite vécu dans le Lot, limitrophe de l'Auvergne, au château de Malaret, où il est resté seul à 21 ans après avoir perdu ses parents. Là, il compose quelques œuvres, même avant d'avoir une formation sérieuse autre que quelques cours de piano. Marié, avec deux petits garçons, il se décide à s'installer avec sa famille à Paris pour suivre les cours de Vincent Dindy à la Schola Cantorum.
Thank you.
Paris, Joseph Canteloube ne fait pas qu'approfondir son métier de compositeur. Il découvre les clans musicaux rivaux qui s'opposent à coups de concerts et d'articles assassins. Il a pour ami Déodat de Sévrac, comme lui originaire du sud de la France. « Comme je lui avouais un jour, écrit Canteloube, le peu d'intérêt que m'inspiraient les clans musicaux, il me dit « Faites comme moi, mon vieux, chantez votre pays, votre terre !» Je le fis et commençai à recueillir les chants traditionnels de l'Auvergne et du Quercy. Pris par leur charme, leur poésie, leur grandeur et leur beauté, sentant ou devinant tout ce dont ils s'étaient imprégnés au cours des âges, je me livrai tout entier à cette collecte que j'étendis à toute la France. Ce n'est pas ici le folklore qui m'attirait, mais la beauté musicale de la plupart des chants. C'est pourquoi je me jurai à moi-même d'en répandre la connaissance en les mettant en valeur dans leur cadre, en les entourant de toute la poésie naturelle possible et non pas d'une vulgaire rhétorique d'accompagnement. Dans l'un de ses écrits sur les chants populaires d'Auvergne, Joseph Canteloube écrit ceci. Les plus beaux de tous sont les chants appelés baileros, dialogue de berger. D'un sommet à un autre, les bergers se répondent, se renvoyant la mélodie à pleine voix, à des distances parfois très grandes. Le chant est ainsi porté par la brise, au-dessus des rivières, vallées et collines, et fait corps avec le paysage, avec la nature, à qui il emprunte la plus grande partie de sa poésie. Le dialogue est souvent improvisé sur les notes invariables de la mélodie. Tantôt, c'est un chapelet d'injures, tantôt des plaisanteries, tantôt un dialogue amoureux, tel celui que je recueillis près de Vic-sur-Serre, dans le Cantal. Une jeune bergère chantait tout près de moi, derrière une haie, sans me voir. Un berger lui répondait d'infiniment loin, dans le calme absolu des hauts sommets, par un admirable crépuscule d'été. Voici la traduction de cet échange entre la bergère et le berger, nous dit Joseph Canteloub. Pâtre d'au-delà de l'eau, tu n'as guère de bon temps, dit. Je n'en ai guère, et toi, dit. Pâtre, le pré est en fleur, il faut y garder ton troupeau. L'herbe est plus fine au pré d'ici. Pâtre, comment ferai-je? En bas, il y a le gros ruisseau. Attends-moi, je vais te chercher. La collecte de chants populaires est une activité très courante depuis le milieu du 19e siècle, un peu partout en Europe. Dans les pays de l'Empire austro-hongrois, Bartók et Dornanyi partent dans les campagnes avec un appareil enregistreur et ils font un véritable travail d'ethnomusicologue. En France aussi, on voit fleurir des recueils de chants de chaque région. Les démarches sont plus ou moins scientifiques selon les cas. Canteloub reconnaît que ça n'est pas toujours facile. Le paysan, dit-il, s'imagine volontiers qu'on se moque de lui. Défiant à l'excès, il ne se livre qu'à son corps défendant. Mais Canteloub persiste. Il raconte dans une conférence au conservatoire « J'habitais alors la pleine campagne, en une région où les paysans chantaient encore volontiers. Je commençais à courir les fermes et villages pour écouter les chansons des paysans, faisant chanter les vieux et les vieilles, les pâtres et les bergères au pâturage, les laboureurs et les moissonneurs au travail. » Joseph Canteloub va mettre plusieurs années à publier ses chants d'Auvergne. La dernière série sera prête seulement en 1954, après la guerre donc, pendant laquelle il aura mis sa connaissance des chants populaires au service de l'État français, s'installant même à Vichy pour y développer tout un système d'apprentissage des chansons à l'école. Sa réputation pâtira de cette compromission. Quand le paysan chante au labour, aux moissons, dit Joseph Canteloube, il y a autour de son chant tout un accompagnement qui n'est entendu que des artistes et des poètes. Seul l'art immatériel, la musique, peut, par les timbres, par les rythmes, les harmonies, mouvants, impalpables, évoquer l'atmosphère nécessaire. Malorus Kouno Feno, un des chants d'Auvergne de la troisième série de Joseph Canteloube, Anamofo soprano avec le American Symphony Orchestra dirigé par Léopold Stokowski. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Régis Nicolas pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dosolm pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.